Mes chers amis, mes bien chers compatriotes, aujourd'hui encore, un face-à-face inouï qui restera dans les annales de la radio-télévision française. Indubitablement, nous montons d'un cran, puisque nous intronisons comme tonton flingueur une véritable bête de scène qui a voué sa vie au rire et à la radio, lui conférant des lettres de noblesse. Voici Sébastien Coé.
Bonjour. Bonjour.
Son adversaire d'un jour est plus jeune, mais pas dénué d'un talent certain tout aussi épatant. Son troisième film déjà, qui s'apprête à pulvériser le box-office, en témoigne amplement, s'il en était besoin, voici le jeune Hugo Gélin. Alors mes chers tontons flingueurs, vous allez devoir, pas plus tard que tout de suite, répondre avec spontanéité, clairvoyance et bon sens à un nombre sidérant de questions politico-sociétales.
Oh mince.
C'est ce qu'on appelle un quiz. Tu le sais ça, Sébastien.
Je savais que ça s'appelait comme ça. Mais...
Au terme de ces six épreuves, l'un d'entre vous repartira avec un cadeau mirifique. Tandis que l'autre ira bien se faire foutre.
Alors,
je veux bien que tu l'as.
Mais avec le sourire.
Mais avant toute chose, cher tonton, il va falloir choisir votre camp.
Eh oui.
Car vous le savez, tous les jours, entre 16h et 17h, notre quiz citoyen a pour but de réduire la fracture sociale. Et à terme, en fin de saison, de l'avoir même éradiquée.
Eh oui.
Alors pour y arriver...
C'est audacieux.
Ouais, c'est audacieux. Pour y arriver, l'un de vous va représenter la France d'en haut et l'autre la France d'en bas, afin qu'en fin d'émission, il n'y ait plus qu'une seule France, enfin réconciliée avec elle-même. Pour cela, c'est Sébastien Coé qui va tirer au sort.
Tu lui tends ton urne transparente.
Absolument.
Vous avez des urnes transparentes?
Oui.
Bah écoutez, bravo.
Tu représentes, mon cher Sébastien.
Ça me fait très plaisir. Je vais donc représenter la France d'en haut.
Bravo. Et toi, mon pauvre Hugo Gélin, tu joueras pour le prix de la France d'en bas. Alors,
ça me va très bien.
Coé, si tu gagnes ce challenge ébouriffant, tu empocheras la bagatelle de 81 millions de dollars.
Pas mal.
Soit 73 millions d'euros. C'est la somme que Monsanto devait verser à Edwin Hardman, car pendant trois décennies, Edwin a eu la mauvaise idée d'utiliser à titre privé un herbicide à base de glyphosate siglé Monsanto. Résultat, le pauvre homme a contracté un cancer de la lymphe.
Ah bon ?
Mais si tu gagnes, et ça n'est pas très normal, mais très France d'en haut, les 81 millions de dollars, c'est à toi que Monsanto les versera ! C'est comme ça que ça se passe. Alors toi, c'est nettement moins classe, Hugo Gélin, comme dotation. Tu gagneras un livre d'occasion.
Ah.
Mais attention, pas n'importe lequel. Un livre collector et je m'y connais. L'autobiographie du maître de midi, paru en novembre 2017, où Christian Quesada, l'incroyable vainqueur du jeu Les 12 coups de midi, 800 000 euros de gains pour 193 participations, raconte sa vraie vie, Hugo. T'as envie de la lire. Mais c'est une bio incomplète, puisque, curieusement, il omet d'y parler de sa passion pour les images pédopornographiques. Qui lui valent aujourd'hui de se voir incarcéré. Donc c'est un livre que tu peux lire tranquillement. On l'applaudit malgré tout.
Et en famille.
Fais pas des têtes comme ça. Mais oui. C'est aussi cela, le jeu.
Alors avant qu'on commence de jouer, je vais quand même, Karl, vous parler de l'actualité de nos tontons flingueurs du jour.
Bah oui, je me demandais.
L'enfant terrible du PAF, il sort son autobiographie. Sébastien Coé, t'es habillé comme tout le monde, mais tu ressembles à personne. C'est paru chez Robert Laffont.
Oui.
Dedans, vous allez pouvoir redécouvrir son itinéraire, l'itinéraire d'un enfant du Nord, de la France d'en haut, finalement, devenu devenu une véritable star de la radio, de la télé et maintenant même de YouTube. Son humour légendaire.
Coé, oui, c'est comme
le
Christian Quesada, mais
aussi
mieux,
à la radio. Et puis, vous pouvez le retrouver sur scène, Coé. 100% libre, c'est son spectacle en tournée dans toute
bonheur,
la France.
Ça.
Dans 12 jours, Sébastien, vous serez à Toulouse, au Zénith, le 13 avril à Aurillac, le 3 et 4 mai à Lyon, au Rideau Rouge.
C'est génial, mais pourquoi tu fais ça? T'as pas besoin de faire ça.
Parce que si la question est financièrement, non, effectivement. Parce que c'est quelque chose. On fait pas ça. Je crois pas qu'on fasse ça. Si, les gens qui vont remplir des pelletées de Zénith, à un moment donné, il y a un intérêt financier dans l'histoire. Moi, je l'ai fait pour aller faire rire les gens. Parce que voir les gens, voir les salles, les voir rire, puis même jouer. Parce
tu veux toucher ton public.
Oui, même c'est même jouer. C'est jouer des personnages, c'est jouer ce qu'on n'est pas forcément. finalement, c'est presque un côté, à un moment donné, acteur sur scène que on peut difficilement parfois faire à la radio.
J'ai toujours
ailleurs.
Dit que tu étais un acteur. Tu mais te souviens
Mais c'est vrai. C'était,
je
c'est
t'ai
vrai.
Dit, tu dois faire une carrière de comédien.
Eh ben, je ne l'ai pas commencé. Mais pour l'instant, la scène, c'est extraordinaire. C'est un bonheur fantastique. Très fatigant d'aller se balader un peu partout. Mais c'est une fatigue tellement géniale.
Hugo Gélin, vous le disiez.
Est-ce qu'il est fatigué, Hugo, aussi?
Il nous présente son troisième film, Après-demain, tout commence, c'est comme des frères. Il vient de réaliser Mon Inconnu en salle après-demain, le 3 avril, avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Laverne, Edith Scob. C'est une très jolie comédie romantique surréaliste à la française. Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n'a jamais rencontré Olivia, qui pourtant est la femme de sa vie. Alors comment va-t-il s'y prendre pour reconquérir sa femme? Vous le verrez au cinéma mercredi.
Et c'est à la suite de quoi qu'il perd la boule?
Il perd pas la boule, il se réveille. C'est un peu comme dans Un jour sans fin, Bill Murray, il se réveille tous les jours le même jour.
Jour de la marmotte.
Lui, il se réveille, mais juste sa femme n'est plus sa femme. Et du coup, il va découvrir la vie qu'il aurait eue sans elle.
C'est effrayant.
Et la vie qu'il a sans elle est évidemment bien, bien moins successful que celle qu'il a avec elle. Et il va devoir tout recommencer à zéro.
Eh bien, c'est un peu comme si le jeune Ganesh se réveillant en étant à ma place, si je comprends bien.
Alors, en attendant, comme tous les jours, nous avons ouvert le standard, Karl, à l'annonce de votre venue, cher tonton. Et c'est un gros succès. Nous avons eu des milliers d'appels.
Non, des millions. Et je crois qu'on commence par Bruce qui nous appelle d'une cabine publique de New York. Il interrompt une mission pour parler à Sébastien.
Salut Coco, c'est Bruce Willis. J'ai entendu des bails atroces sur toi. Il n'y a pas moyen, Dja-Dja. À ce qui paraît, quand t'es au régime, tu commandes quasiment au resto. Parce que ton régime, tu le fais hyper sérieusement. En mode Christian Bale, le Coé. De source sûre, je sais que tu commandes une endive, mais que tu pioches dans les plats de tout le monde. Et que finalement, ton Weight Watchers, il passe à la trappe comme à chaque coup.
Tu confirmes cette odieuse rumeur?
Oui, parce que j'ai une théorie qui n'est propre qu'à moi-même. Je pense que quand je commande à manger... évidemment, si je prends un truc lourd, je grossis.
Ah oui.
Mais si je tape dans l'assiette et que c'est
pas
moi qui l'ai commandé,
c'est du vol.
Je commande pas.
Donc
je grossis
vol,
pas, je veux dire.
Quand il y a vol, en fait, on grossit pas.
Bah, en fait, voilà. Donc c'est vrai que j'ai cette fâcheuse habitude de dire non, juste une salade et un bout de saumon et après je tape dans tous les trucs autour. Oui, c'est pas bien.
Nous avons maintenant Karl Jean-Luc de Marseille qui veut parler à Hugo Gélin.
Bonjour, monsieur le bien-né. C'est la République. La République, c'est moi. Alors, vous êtes né à Paris le 4 mai 1980 et vous êtes issu d'une longue lignée d'artistes, fils de Xavier Gélin, petit-fils de Daniel Gélin, Daniel Delorme, tout ça, que du beau monde, hein ? Ça sent en plus le drap en taffetas. Bref, je vous ai lu, vous dites, avec une telle famille, je me cachais pour faire du cinéma quand j'étais adolescent. Eh ben, je vais vous dire que même si je vous répudie, je suis comme vous, moi aussi je me cache pour jouer au Monopoly avec Corbière et Garrido, c'est mon péché mignon. Brasser des billets, faire piller des pauvres. En plus, j'ai renumé toutes les rues. Boulevard Chavez, impasse Maduro, avenue Lénine. Je me confesse ici devant Europe 1.
Hugo.
Alors, que dire à ça?
Que tu te cachais quand tu étais enfant pour faire du cinéma.
Ouais, je me cachais. Je faisais des films, j'ai commencé à 12 ans, ouais. 12,
mais pour
12,
quelle
13
raison
ans.
Pourquoi te cacher alors que toute la famille fait du ciné?
Bah,
t'avais honte de faire du ciné.
Ouais, justement, ouais. Non, mais moi, je faisais des films, je les tournais. Donc, j'étais pas acteur, il y avait pas mal d'acteurs dans ma famille et d'actrices. Et moi, je préférais prendre la caméra. Et oui, dès 12, 13, 14 ans, je faisais des films, mais des films d'une heure et demie, hein, des vrais longs films que j'écrivais toute l'année.
Filmé avec quoi, un caméscope?
Ouais, exactement.
Gros ou petit?
Moyen. Écoute, j'ai fait ça très vite, et puis très vite, j'ai appris mon métier comme ça, en fait. J'ai appris à faire des films en faisant.
Eh bien, merci, on l'applaudit. Les sons.
Alors, Karl, nous allons découvrir les sons maintenant qui vont représenter nos tontons flingueurs du jour. Car vous allez jouer l'un contre l'autre. Et quand l'un sera en tête dans les scores, il aura son propre jingle. Pour vous, Coé, ça sera ça. Radio Gaga. Parce que quand on parle de radio, on cite toujours Coé. C'est
bien
lui, hein, c'est lui l'homme de radio
mais
en France.
Mais il n'est pas Gaga.
Non.
Non.
Pourquoi c'est... Radio Gaga
c'est de... Explique-lui.
Moi, ça fait longtemps que je n'explique plus rien. Hein.
Bien,
et pour
next.
Vous, Hugo Gélin, ça sera ça.
C'est fou, c'est fou.
C'est
fou.
C'est fou parce que c'est la réplique de François Civil qui a le rôle principal dans Mon Inconnu. Il dit tout le temps c'est fou dans
ce exactement.
Film.
C'est fou, c'est fou. C'est
c'est fou.
Fou. Non, on répond que fou.
Europe 1. Karl Zéro et ses tontons flingueurs font le tour de l'actu jusqu'à 18h sur Europe 1.
Alors, Alors, tonton Sébastien, tonton Hugo, nous allons démarrer en mêlant humour et information avec un nouveau jeu radiophonique. Enfin, je ne sais pas s'il est nouveau. Un jeu que j'ai baptisé Dans la peau 2, à l'instar d'une excellente série de films qui a fait un mec qui a un nom qui ressemble au mien. Le principe est très simple. Il s'agit de se glisser dans la peau d'un personnage placé actuellement sur les feux de l'actualité et d'imaginer sa réponse à une question qui est en l'occurrence celle que tout le monde se pose.
J'ai compris.
Celui d'entre vous qui a l'imagination la plus fertile, la défense la plus appropriée, remportera le point. Bien entendu, de façon tout à fait arbitraire, je ferai juge-arbitre.
Comme d'hab.
Parlez sans crainte, je peux tout entendre. Tous les arguments seront bons, y compris les plus grotesques. Et on commence par ceci. Hugo.
Oui.
Mais Sébastien, tu peux aider. Dans la peau de Gad Elmaleh, tu dis quoi aux gens qui t'accusent de plagiat ?
Je leur dis, déjà je leur parle en anglais, que maintenant je suis américain,
ouais.
Et que j'ai beaucoup d'avocats.
Ceux de Michael Jackson.
Non, j'ai ceux de Gad Elmaleh. Et je leur dis que le plagiat c'est depuis la nuit des temps, non, je sais pas, enfin toutes les histoires ont toujours existé et on fait que répéter des histoires qui existent depuis la nuit des temps. Franchement, le mec fait rire la France entière, bientôt maintenant les États-Unis. C'est un peu facile de tomber sur le seul gars qui défonce à l'international. Moi, je le trouve hyper drôle. Il est drôle. Enfin, voilà, il n'y a aucune raison de se prendre la tête sur une phrase, une réplique qui ressemble peut-être à l'un ou à l'autre. Moi, je trouve ça un peu too much.
Et puis, ils l'ont tous fait.
Et en plus, ouais, c'est ça.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais en plus, il y a vraiment un truc chez les humoristes. C'est que je sais que les humoristes, quand ils se voient ensemble et tout, je crois qu'ils n'osent plus faire des vannes.
Mais
en fait,
oui,
parce qu'ils disent Attends, il va me la piquer, etc. Ouais. Enfin, il y a un truc, c'est assez.
Mais leurs rencontres sont particulièrement tristes. Eh bien, le point est accordé à Hugo.
Oui,
bonne
très
défense.
Bonne défense.
C'est grâce aux avocats américains, ça. Hein.
Bravo.
Ça marche.
Sébastien,
oui.
Dans la peau de Castaner, tu dis quoi à ta femme pour te justifier de tes roulages de pelle intempestifs en boîte?
Bah ça, c'est...
Alors, chérie, alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'arrivais, je ne comprends pas. Je suis arrivé. Cette jeune femme s'est accrochée à mon cou.
Ouais.
D'ailleurs, à un moment donné,
on
voit la
fait.
Vidéo.
Ça marche pas. C'est ce que tu as fait pendant des années.
Toi-même
dans ta vie.
Et ça
marchait
pas.
Et ça a marché,
Madame,
tout marche. Il suffit à un moment donné de regarder dans les yeux, ne pas vaciller et ne pas avoir la voix qui fait. Mais je te jure, j'ai rien fait. Faut toujours rester
alors,
droit.
Alors vas-y, regarde-moi dans les yeux, fais-le moi.
Chérie.
Oui.
C'est ma sœur. C'est ma sœur.
Tu embrasses ta sœur sur la bouche.
Depuis que je suis premier ministre de l'Intérieur, j'ai plus le temps. Elle est venue, elle m'a fait la surprise. Bleu pas du tout sur ma bouche, monsieur, mais vous voyez mal. C'est de côté, c'est pris de loin. C'est un mauvais paparazzi. Elle me parle là. Alors là, elle a une technique familiale qui consiste à parler près de la bouche, peut-être. Mais qu'est-ce qui vous dit que chez les Castaner, on ne se parle pas près de la
Allez,
bouche?
Bonne réponse Allez. Pour Sébastien.
Ah, il est bon, il est bon.
Il est bon. Alors Hugo,
oui, bien
tu
sûr.
Es dans la peau du cardinal Barbara.
Il y a de la chance,
Hugo.
Tu dis quoi
délires, hein,
au pape qui vient de refuser ta démission pour le convaincre que tu devrais démissionner éventuellement?
Oula.
Alors déjà, tu m'appelles très Saint-Père, vas-y.
Attention à ce que tu vas dire, tu sors un film dans deux jours.
Voilà. Saint-Père Carl.
Ok.
Je suis allé au cinéma, j'ai vu Grâce à Dieu. Et en fait, j'ai appris plein de choses.
Oui.
Et il faut absolument que tu acceptes ma démission, car tu le sais toi-même. On a fait des trucs pas classe. Voilà, je suis désolé. Et si tu n'acceptes pas ma démission, bah, je suis désolé, mais je suis obligé de dire ce que toi aussi tu fais.
Oh, pas wow, mal.
Le chantage.
Chantage au pape, la réponse est refusée.
Oh,
ah,
merde.
Ah, parce qu'on
ça
peut
faisait
pas
un
accuser.
Peu série au Vatican et tout, on a envie de savoir la suite.
On a envie, bah, regarder Netflix, mais c'est pas sur Europe 1 que vous entendrez ça.
J'aime bien la phrase, surtout. On a fait des trucs pas classe.
On a fait des trucs pas classe.
Faut qu'on se le dise, faut qu'on se réunisse.
Coé, oui. Dans la peau d'Hélène Rollès.
Ah.
Pourquoi
d'Hélène
j'ai pas Hélène,
et les garçons,
moi,
tu dis quoi au président chinois Xi Jinping pour qu'il achète plus d'Airbus à la France?
Alors écoute, Xi.
Donc Xi, moi c'est Xi.
Xi, tu es fan de moi.
Oui.
C'est le dernier pays. Tu es fan de moi, il n'y en a plus. Donc, je te promets que je viens chanter chez toi, dans la chambre, avec ton lit que tu transportes toi-même personnellement.
Oui, bien sûr.
Je viens chanter devant toi toutes mes chansons, c'est-à-dire une seule, mais en boucle.
Ouais.
Toute la nuit, je te fais Hélène, je m'appelle Hélène.
Vas-y, commence tout de suite.
Hélène.
Oui.
Je m'appelle Hélène. Signe les Airbus, signe le double. Je suis une fille.
Ça m'excite.
Comme les autres.
Et
le mec s'endort comme ça. S'endort comme ça progressivement. C'est vrai qu'il y avait ces rires-là.
Oui,
les mecs arrivaient toujours, ils ont. Dis donc, tu parais être en retard.
Ah, mais oui, c'est vrai, tu es en avance.
J'avais pas vu que c'était le changement d'heure.
mais ils vont bientôt le supprimer.
C'est fantastique cette série.
Bilan Anissa de cette première
il
manche.
Il a gagné.
Eh bien, c'est Coé qui est en tête face à Hugo Gélin.
Ouais, mais il avait des questions plus faciles.
Il a eu les meilleurs. Il a eu les meilleurs.
Il a eu des questions un peu plus faciles, c'est vrai. Radio Gaga.
Tous les jours sur Europe 1 à partir de 16h, Carl Zéro est entouré de ses tontons flingueurs pour jouer avec l'actu.
Chacun s'accorde sur une chose indiscutable, les enfants sont irremplaçables, car la vérité sort de la bouche des enfants.
Toujours.
Oui, enfin, bon, j'allais dire un truc,
non,
je
ne
l'ai dit
pas. Non, mais je sais bien, je vais
venir. T'allais le dire aussi.
Mais non.
D'ailleurs, Pablo Picasso disait à 5 ans, on a du génie, ensuite on se prolonge. C'est toi, Hugo, qui dit ça quelque part. Aussi, tout le monde se souvient de l'école des fans du regretté Jacques Martin.
Les enfants sont merveilleux.
Coé, toi-même, tu as été dans le public de cette émission culte entre toutes.
Mais non.
Et tout petit, et je suis bonheur qu'il aurait vendu père et mère pour pouvoir monter sur la scène aux côtés du grand Jacques.
Non, j'aurais eu peur.
Il aurait fait un câlin à Enrico Macias, à Pierre Bachelet.
C'était Dalida quand j'y suis allé, moi.
À Dalida, encore mieux.
Bien, là, ouais.
Ou même, en désespoir de cause, à Pino Latuccia.
Ah oui, le pianiste.
C'est à chaque fois qu'il y avait un enfant qui chantait mal, c'était Pino. C'est Pino qui a raté. À chaque fois, les gamins chantaient toujours de travers, tu sais.
Ah, bah oui, ils chantent faux, les enfants, bien entendu. Nous allons donc te replonger, Coé, sur cette époque bénie de l'enfance. Notre équipe de stagiaires, surexploités, produit du Nouveau Monde Actuel, a compilé quelques-uns des passages mémorables de ces écoles des fans. Alors, je vous passe un court extrait. Et à vous de me dire ce que chacun de ces gosses a pu répondre au Jacques Martin sidéré. Premier extrait.
On va faire un concours de grimaces tous les deux et c'est le réalisateur qui juge. À toi de commencer, vas-y. Alors moi j'en fais une autre. Comment tu la trouves?
Stop.
T'es moche, il y a peut-être un t'es moche.
Non, moi je dirais plus t'es pareil.
Moi j'aurais dit un t'es moche.
Bonne réponse de Sébastien.
Putain, merde.
C'est le t'es moche.
Comment tu la trouves?
Moche.
Deuxième extrait.
T'aimes bien manger?
Oui.
Qu'est-ce que tu aimes le mieux?
Ben, j'aime le cassoulet. Quand maman fait du cassoulet, ben moi, je fais toujours la nuit.
Tu fais?
Je fais toujours la nuit.
Ah bon?
Oui.
Pourquoi?
Alors pourquoi?
Parce que ça te fait faire pipi.
C'est pire.
Ah, c'est du cassoulet.
Cassoulet.
Ah, j'avais compris café au lait.
Non, du cassoulet.
Ça fait péter.
Ça fait péter.
Ah ouais, pas mal.
Ça aurait pu être ça.
On écoute la réponse.
Pourquoi?
Oh bah, Eva fait péter à du cassoulet.
Effrayant. Attention, la question de Jacques.
Il a une bonne bouille, Jean-Paul. Il boit de l'eau ou du vin?
Du vin.
Combien il boit par jour?
Ça doit être un genre 6 litres, ça doit être un truc, ça doit être un truc lunaire.
Ouais, genre
Hugo.
12.
C'est entre les deux. Écoutez.
Bah, 1, 2, 3, 2, 3 litres.
Allez, il est policier.
Un point chacun. Attention, ça c'est dur à trouver.
Qu'est-ce que tu vas chanter?
Bah oui,
je sais pas.
Ça peut être ça, ouais.
Non, mais ça n'a rien à voir avec la chanson,
ah,
en fait.
Non, il a une
passe... digression de l'enfant.
C'est pas le j'ai envie de faire pipi. C'est pas le fameux j'ai envie de faire...
Il les connaît par cœur, en fait.
C'est le petit... Bah oui, parce que je me dis qu'il
j'ai envie de faire pipi.
Qu'est-ce qu'il y a?
Pipi.
Sur mes chaussures.
Ça va les salir.
Mais non, c'est pas grave, ça.
Oh non.
Attention, une question qui concerne la gendarmerie.
Et comment il s'appelle, papa?
Papa, il s'appelle Freddy.
Qu'est-ce qu'il fait comme métier?
Gendarme, et puis, et il en a deux, trois gendarmes qui sont ici dans la salle.
Ah, il est gendarme, Freddy?
Et là, qu'est-ce qu'il répond le gosse?
De dire, alors fais attention à toi ou quelque chose comme ça, non?
Il balance sur les collègues.
Et un auteur de sketch écrira en durant, oh là, tu pousses un peu.
C'est avec l'alcool?
Eh oui.
Ah putain.
Ils ont tous bu avant de venir?
Bah tu vas voir, on écoute.
Oui, mais aussi les autres gendarmes à la gendarmerie, ils boivent quelquefois des pintes.
Ils boivent des pintes à la gendarmerie?
Ah oui, ils sont des buveurs.
Ah, c'est des buveurs?
Alors là, ça, c'est le climax absolu, écoutez.
Il est là, parrain?
Alors, son parrain n'est pas là, mais pourquoi?
Il donne une raison pour laquelle le parrain n'a pu se rendre à l'émission.
Il fait la sieste.
Ah non, Pierre.
Ah, non. C'est beaucoup plus inattendu.
Là, le parrain, il a des gros soucis.
C'est extravagant.
Il est en prison ?
Non. Il pourrait peut-être y aller à cause de ça.
Il est parti avec maman ?
Non. Il a un problème.
Il n'est pas en prison.
Bah, c'est la partie peut-être avant la prison, bon, si c'est vraiment très grave. Bah, si c'est très grave.
Non, moi, ça m'est déjà arrivé, je suis en prison.
Ah, il a eu un contrôle fiscal.
Il
y en a qui sont en prison.
Il peut venir, il a un contrôle fiscal.
Il se montre plus à la télé, il est caché sous les meubles.
C'est génial. Tu connais bien Karl.
Alors le bilan.
Eh bien, sur cette manche, comme quoi on voit qu'il a assisté à l'émission et qu'il a fait partie du public, c'est Coé qui mène face à Hugo Gélin.
Je prends une branlée.
De l'actu, des quiz, des anecdotes et beaucoup de bonne humeur. C'est le programme tous les jours et même le week-end à partir de 16h sur Europe 1 avec Karl Zéro et ses tontons flingueurs.
Mon cher Sébastien, j'ai lu ton autobiographie en forme de mémoire. T'es habillé comme tout le monde, mais tu ressembles à personne. Sorti chez Robert Laffont.
On dirait une phrase d'Audiard, mais c'était une phrase de mon père.
Ah oui, il disait ça.
Oui, oui. C'était pour ça, quand il a fallu choisir le titre du livre, il y avait deux possibilités. Une qui était plus classique, qui était Tu vas pas faire ça. Parce que toute ma vie, à chaque fois que j'avais un projet, on me disait bon, tu vas pas faire ça, le one man, la radio, la télé. Et je trouvais que c'était lui rendre hommage que de mettre cette phrase-là, en fait.
Alors, est-ce qu'il n'est pas un peu tôt pour sortir des mémoires à ton âge ?
Écoutez, non. Des gens de télé-réalité en ont sorti à 19 ans et demi. Je ne vois pas pourquoi.
C'est vrai.
Et arrive à remplir 200 pages. Je ne vois pas pourquoi à 46, je ne pourrais pas en remplir 380. Non, en fait, je me suis réellement posé cette question, parce que la vraie inquiétude, c'était l'accueil du public.
Parce que le danger, c'est qu'on dise « Ah, ça y est, il tire le bilan. »
Ah non,
et ça veut dire que c'est fini.
Alors ceci dit, tirer un bilan ne veut pas dire qu'on arrête. On peut toujours tirer des bilans à certains moments. L'histoire, c'était de se dire « J'ai vécu plus de rêves pour moi, qui était un gamin qui regardait la télé, qui écoutait Europe 1 avec Coluche, les grosses têtes sur une... Voilà, mon père avait deux radios, donc ils
appelaient... Les grosses têtes, ça n'existe pas.
Elle existe à l'époque ici. Et je vous assure que je rêvais de ça, et je me suis dit à un moment donné, comme j'ai vécu beaucoup plus que tous mes rêves, que je m'imaginais pas un jour faire le Palais des Sports en one man, je m'imaginais pas.
Donc tu veux rendre au public ce qu'il t'a donné.
Oui, leur expliquer une histoire, parce qu'à un moment donné, quand on est public, bah, notre histoire devient un peu publique. Donc autant écrire la vraie. Ouais. Et puis je voulais aussi donner un livre avec plein d'optimisme, parce que j'ai des témoignages tous les jours, y compris de gens qui m'aiment bien, puis de gens qui me connaissaient pas si bien que ça et qui ont vu le livre et qui l'ont lu, parce qu'il m'est arrivé des trucs pas forcément drôles dans ma jeunesse quand on perd ses parents. Et on peut voilà vivre des drames et continuer d'essayer de viser ses rêves et de se dire qu'on va quand même, la vie ne s'arrête pas. Malheureusement, si la vie de vos proches peut parfois s'arrêter, ben la vôtre, elle ne fait que commencer. Et il ne faut pas la gâcher pour autant. Au contraire, il faut creuser le sillon encore plus et se battre encore plus.
Ça, voilà. C'est le Coé plein d'espoir que nous apprécions.
Plein
Mais il y a aussi le Coé fielleux qui n'hésite pas à balancer quelques perles sur certains collègues. Alors, par exemple, Arthur est odieux avec ses stagiaires.
Mais ça, vous savez, quand vous faites un bouquin, vous expliquez ce que vous avez vécu à un instant T. Si vous dites que tout le monde a été génial et que votre vie était géniale, vous pouvez écrire un bouquin. À l'époque, quand j'ai commencé la radio, je dis aussi en toute transparence que j'étais fan de lui, d'ailleurs, quand j'avais moins de 20 ans, et que c'est vrai, quand je suis arrivé à Paris,
tu as été déçu.
J'ai pas rencontré une ambiance qui était extraordinaire, mais que ça m'a servi de leçon, parce que je me suis dit ensuite, dans mes émissions, il faudra toujours qu'il y ait une bonne ambiance.
Alors, histoire de ramener la paix dans les chaumières, tout en restant dans cette thématique, je vous propose un quiz taillage de costard chez les Restas.
Je trouve qu'il a de beaux costards.
À propos de qui Eddie Mitchell s'est-il emporté ?
Si cet homme fait du cinéma, alors moi je suis la femme à barbe. Son seul apport au 7e art est d'avoir inventé l'ellipse. Pour le reste, c'est un compte en manque en Suisse.
Un très grand réalisateur.
C'est pas Tarantino ? Non.
Un indice.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
À bout de souffle, mais dénuez ça.
Godard, ça, bonne réponse commune, l'a dit à bout de souffle, l'autre Godard.
Ouais, c'est ça qui m'a aidé.
À bout de souffle, pas diminué ça, à bout de souffle, tout quoi.
À propos de qui Robert De Niro a-t-il lâché laconique ?
C'est un cochon, un connard, un artiste raté. Il dit qu'il veut frapper les gens, mais moi j'aimerais le frapper.
C'est pas Trump, c'est pas...
Comment ça, c'est pas Trump ?
Ouais, c'est Trump, si, si.
C'est Trump,
c'est Trump. C'est Trump, bonne réponse commune.
Ouais. Bien joué.
À propos de Sylvie Vartan, sur qui a-t-elle défouraillé ses vers ?
Elle a l'air très sympathique, mais je ne sais pas quel est son passé artistique, c'est insensé. C'est comme si moi j'allais diriger les galeries Lafayette. C'est une histoire de famille. Hein.
Une histoire de famille, et un petit indice. Petit indice, non.
Je suis bien surtout avec tout le monde et on m'appelle mamie.
Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait trompeler, mamie Tromblon.
Mamie Rock, la mère ou la grand-mère de Laetitia Hallyday.
Bonne réponse, mamie
grand-mère. Il est très people.
Il est
ça.
Il va être abonné d'honneur à Closer, le mec. À propos de qui Thierry Ardisson s'inquiéta-t-il ?
J'ai peur que la cocaïne t'ait bouffé le cerveau. Tu me reproches d'animer des jeux débiles, mais tu oublies que tu as commencé à la télévision dans une émission culturelle que j'animais.
Oh là là, c'est violent. Oh, c'est un très célèbre mondain.
Mondain, j'aime bien comment vous dites mondain. Un indice sonore.
Je ne suis pas un anti-garçon. Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans.
Ah mais si, c'est le mec qui a joué dans... C'est le rôle de Dujardin dans 99 francs, ouais. Donc c'est l'autre là, Bec BD.
Bec BD.
C'est Bec BD.
Bonne réponse, ouais. Là, c'est Sébastien qui l'a trouvé. Bravo. À propos de qui Anémone a-t-elle craché dans la soupe hein.
Il a fait quoi à part se déguiser et mentir, voter à droite et fuir le fisc? Il n'a fait que se marier, divorcer, se marier. C'est un pantin médiatique.
Johnny Hallyday. Johnny Hallyday.
Bonne réponse d'Hugo Gélin, bravo. Et pour conclure, à propos de qui Michel Drucker a-t-il, pour la première fois de sa vie, là, franchement, émis un léger bémol?
Il était antipathique et prétentieux, il m'a laissé un très mauvais souvenir.
Bon, c'est marrant, moi, quand je dis un truc sur Arthur, on me le reproche, comme Michel Drucker, il dit quelque chose, on dit rien. Qui a pu être
antipathique? C'est un peu large en plus, là.
Ouais, ça peut être, il y a du monde qui est antipathique.
Hein.
Besson?
Non.
Jean-Marc Barr?
Non plus. C'est dans l'univers, il n'est pas dans le film du tout, ah, mais c'est dans cet univers.
Cousteau.
Ah, Cousteau.
Bonne réponse! Bravo!
C'est fou!
C'est
fou!
Europe 1. Dès 16h, tous les jours, du lundi au dimanche sur Europe 1, Carl Zéro et ses tontons flingueurs s'amusent avec l'actu.
Alors, Benjamin Laverne est un acteur et c'est un des acteurs de ton film Mon Inconnu.
Oui,
mon cher
tout
Hugo,
à fait.
Qui sort dans quelques jours. Il est pensionnaire de la Comédie Française.
Tout à fait.
Et alors, ce garçon a annoncé que si ton film dépassait 1 million de spectateurs, lui et François Civil, un autre de tes acteurs, se feraient tatouer Ping et Pong sur la poitrine.
Oui, l'un à Ping, l'autre à Pong dans le film. Tout à fait.
Ah, faut vraiment
verdict
y aller, alors.
Dans quelques jours. On fait tous des paris parfois un peu stupides, dont on a évidemment après un peu honte quelques années plus tard. Par exemple, souvenez-vous que Jospin avait parié qu'il serait au second tour en 2002. Benalla avait parié qu'il pourrait défoncer en douce et à tour de bras de la racaille gauchisante sans être inquiété. Ou encore un youtubeur a parié qu'il pourrait arrêter une balle de revolver avec un simple livre. Des paris stupides. D'ailleurs, tonton Sébastien en a fait 150.
Des paris stupides.
Ah oui.
Mais raisonnable quand même. Là, j'ai pas arrêté une balle avec un bouquin. On est
resté dans le.
Mais une fois, j'avais fait un pari débile qui était de pouvoir marcher le truc des fakirs. Vous savez, de pouvoir marcher sur des.
Ah, ouais. Les clous.
Des trucs ardents, non, des braises.
Ah, des braises. Tu l'as fait ça.
Et en fait, le gars m'a bien expliqué la technique. Il faut bien se mouiller les pieds avant parce qu'en fait, il y a un truc quand même. Ouais. Ah. Puis on marche et puis après, on se remet les pieds genre 10 minutes dans de l'eau, etc. Et moi, j'ai fait le malin. J'ai un peu raté la phase d'explication.
Ah oui.
Merde.
Et j'ai fait non, je le fais pas. Je le fais pas. Je le fais pas. Je voulais faire monter le suspense, puis je fais allez, je le fais, et j'enlève mes chaussettes et je marche. Et au milieu du parcours, je me dis c'est chaud quand même, c'est très très chaud parce que j'avais oublié de mettre mes pieds dans l'eau froide avant, donc vraiment il restait 2 mètres, mais ça a été les 2 mètres les plus longs de ma vie parce que je voulais rester digne. On a envie de faire un peu là, mais on reste digne. Et en arrivant au bout, j'ai surtout oublié de les replonger dans l'eau,
et là,
et je me suis fait une brûlure au 3e degré parce qu'en fait, les braises continuent de brûler sur la peau même quand on n'est plus dessus, et la peau continue de brûler.
C'est atroce,
je sais plus marcher pendant 4 jours. Voilà,
c'est
un
une
pari
très belle idée.
Idiot. C'est idiot.
Formidable.
C'est idiot. J'interdis à mes enfants de le faire un
alors
jour.
Alors, je vous propose le quiz des paris stupides et ça va plaire à Hugo, des people. I love Paris. Et ça commence par une anecdote. George Lucas était persuadé que son petit film qu'il préparait, Star Wars, allait être un bide. Alors, il a parié avec son meilleur pote Spielberg, qui réalisait au même moment Rencontre du troisième type, que chacun donnerait 2,5% des bénéfices à l'autre. Combien George Lucas a-t-il perdu dans cette affaire?
C'est en millions de dollars déjà.
C'est en millions de dollars.
C'est que sur les films ou les recettes globales, parce que...
C'est 2% des bénéfices.
Ouais. Des bénéfices.
Est-ce que vous pouvez lui amener les contrats à Sébastien pour qu'il puisse vérifier?
Non, parce que je sais qu'il avait dealé, comme personne ne croyait à son film, il avait dealé les jouets.
Il avait dit
le merchandising, c'est à lui. Il a dit non, mais ça, je garde.
Je sais pas, c'est une dizaine. Je sais pas, 15.
15
millions.
Ah, je sais pas, mais je dirais, j'ai tendance à dire, moi je dirais 20 millions de dollars, histoire de dire un peu plus. Mais...
40 millions de dollars.
Putain,
pour un pari. Et il a honoré son pari.
Oh, bah, il peut, bah, en même temps. Ouais.
Mais il en aurait gagné 200 du coup, en même temps.
Qu'a parié le réalisateur allemand Werner Herzog si le tournage de son film, sobrement intitulé Même les nains ont commencé petits, se terminait bien?
Il a parié qu'il sauterait dans un cactus.
Ou il a parié qu'il se ferait percer les tétons.
Oh, moi, je dirais les tétons.
Les tétons de Werner.
On faisait les tétons à l'époque ? Ça se faisait ?
Non, mais avec son prénom. C'était les débuts.
Ah, je m'appelle Werner, j'ai les tétons piercés.
Je trouve que ça lui va très bien.
Oui, non, parce que se jeter dans un cactus, c'est idiot. Les tétons, c'est plus. Les tétons, ça fait.
Les tétons, ça fait rêver. Et vous êtes deux énormes buses.
Ah, mais ouais.
C'est jeter dans un cactus ?
C'est jeter dans un cactus.
C'est idiot.
C'est nul. Mais c'est un peu pourri comme pari.
Bah, c'est un pari pourri, mais en même temps, ça fait moins mal peut-être que le piercing des tétons. Une fois que tu as retiré les épines, bon, ça dépend. En quoi Penélope Cruz a-t-elle été obligée de se déguiser après un pari stupide avec Johnny Depp ?
Elle s'est déguisée en petit caca de Noël.
Ou alors elle s'est déguisée en Edouardess au string d'argent.
Un caca, je pense.
Caca.
L'émoji caca.
Vous êtes très caca tous
les deux.
L'émoji
caca, je pense. Ouais.
Non, en Mr. Hankey, un personnage de South Park.
Ah oui, bien sûr.
En petit caca de
Noël.
Ouais,
petit caca, ouais.
C'était sur le tournage d'un des épisodes de Pirates des Caraïbes. Et ils ont commencé à délirer autour donc, des excréments avec des coussins péteurs. Et le résultat fut ce déguisement.
Un film Disney.
En plus, ouais.
Quelle a été la tragique conséquence pour Guy Carlier après la défaite du PSG lors de la remontada de Barcelone en 2017?
Il a dû se faire tatouer Matt Pokora sur le torse.
Ou il a dû se faire tatouer Cyril Hanouna sur le torse.
Ah ouais. Non, c'est Matt Pokora qui est supporter de l'OM, c'est sûr. Et ils sont potes.
Bonne réponse, Hugo.
Ah, mais dès que c'est people, moi, c'est bon.
Ouais, j'ai vu.
Il est à fond, Hugo.
Alors, notez que le célèbre YouTuber que doit connaître Ganesh, qui est lui-même YouTuber, un YouTuber médical qui s'appelle Julien Méniel, a perdu un pari. Et lui, il s'est fait tatouer Cyril Hanouna, qu'il essaie en vain de faire retirer par laser depuis des années. Il l'a fait tatouer où, tu sais ?
Je sais pas du tout, mais là, il est déjà à la 14e séance et ça part vraiment pas. Quoi.
Puis ça fait vraiment mal, hein, le laser. Ouais.
Le bilan.
Le bilan, eh bien, nous avons une égalité sur cette manche entre Coé et Hugo Gélin.
C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou.
Tonton Flingueur, Carl Zéro, de l'actu, des jeux et de la bonne humeur. C'est votre programme, même le week-end, sur Europe 1 à partir de 16h.
Maintenant que nos deux jeunes tontons se connaissent mieux, je vais leur proposer d'échanger leur rôle. Juste le temps d'une interview croisée. L'interview toi ou moi, c'est pareil.
Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre.
Alors tous les mêmes, c'est à voir. Sébastien, tu vas répondre pour Hugo et Hugo pour Sébastien. Sous le contrôle, bien entendu, l'un de l'autre.
D'accord.
D'accord. Et c'est l'autre qui donne ou non le point en fonction de la réponse.
Pas mal.
Alors je me tourne pour commencer vers Hugo.
Oui.
Sébastien, dans une de tes émissions de télé, tu as eu à gérer un énorme souci. Jamel, voulant singer Gainsbourg et Whitney Houston, a dit à la chanteuse Dani Minogue « I want to fuck you ».
Oui.
Elle l'a très mal pris, quittant le plateau. Comment as-tu fait pour parvenir à terminer l'émission ?
Mais en fait, je suis allé la voir en loge, elle pleurait.
Oui.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, elle était amoureuse de moi.
Ah !
Depuis le début.
Ça est vrai.
Voilà, parce que je l'avais rencontrée dans le Nord. Ouais. Et elle, aime beaucoup, les Français. Vous savez.
Je crois qu'elle a une petite maison en Picardie.
Voilà.
Avec sa sœur.
Voilà. Et elle aime beaucoup les Français, hein, vous savez. Et
tu
elle a été avec plusieurs Français.
Et pas Jean-Claude.
Et en fait, elle l'a très mal pris parce qu'elle s'est dit c'est fou que devant la France entière, il accepte qu'on m'humilie comme ça.
Ouais.
Donc, bah, du coup, je me suis rattrapé. Elle m'a dit fais-moi un enfant. Et bon, bah, je lui ai fait un gosse. Voilà.
Bonne réponse.
C'est pas sorti dans la presse People, ça. Il
n'y
a qu'ici qu'on le raconte. Hein.
Alors, à ton tour, Sébastien, Hugo, tu n'avais que 12 ans.
Oui.
Mais tu te souviens avec émotion des grandes tablées de ton enfance.
Hallucinant.
Eh oui, il y avait là Jean Rochefort, Claude Sautet, Yves Robert. Et tout ce petit monde refaisait justement le monde. Est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as eue ?
Mais c'était fantastique. Je me souviens, Jean Rochefort, qui était quelqu'un de bourru, mais qui adorait ses amis. J'étais là, je lui tirais un peu la moustache. Il disait rien. J'étais le seul à pouvoir lui tirer la moustache.
Yves Robert avait une moustache aussi.
Mais d'ailleurs, on faisait des concours de moustache. Je me pendais à l'âge de deux ans. Et il venait de chaque côté. Il dit, allez, Hugo, fais la balançoire dans nos moustaches. Donc je me pendais à chaque moustache. Et d'ailleurs, après les dîners, ils avaient souvent la moustache un peu plus longue et tombante, ce qui était un peu gênant parce que...
À la José Bové.
Quand il a tourné Un éléphant s'est trompé énormément, il y a eu un problème de moustache parce qu'on avait tous mangé la veille. Et voilà, c'était un peu compliqué, je m'étais pendu que d'un côté. Donc c'était un peu plus... Mais quand même, qu'est-ce que c'était bien cette période.
Excellente réponse, on applaudit. Alors Hugo, ou plutôt Sébastien,
oui.
Il paraît que tu as essayé de rencontrer des jeunes femmes via Tinder.
Oui, j'ai fait ça, oui.
Mais qu'être une personnalité publique sur un site de rencontre n'aide pas toujours à trouver l'âme sœur, car les filles ne te croyaient pas quand tu envoyais ta photo.
Exactement. Et donc elles ne me croyaient pas, je disais mais si, si, je suis Sébastien, j'ai envie de refaire ma vie, je vois pas en quoi c'est honteux d'être sur Tinder, etc. etc. Et elles me disaient non, non, je te crois pas. Et bon, elles ont compris qui j'étais quand je leur ai envoyé une photo de ma tub.
Quelle
Tu craques souvent comme ça?
Ouais, ouais.
Très bonne réponse.
Très bonne réponse.
Quelle très bonne réponse, qu'est-ce que vous en savez, vous? D'où très bonne réponse?
On a tous les deux.
Mais Sébastien, Sébastien, tu as besoin vraiment de Tinder pour pécho?
Bah, plus maintenant, mais à l'époque, oui.
C'était il y a deux semaines que tu le faisais.
Ouais, ouais, je sais. Mais depuis une semaine, ça va mieux.
Bon, très bien.
Tu sais que je l'ai mis dans le One Man, ça, parce que c'était, c'était très, très drôle.
Ouais.
C'est vrai qu'à chaque fois, c'était toujours espèce de mytho. Pourquoi tu mets la tête de Koé? Bah, enfin, si j'étais mytho, je mettrais la tête de Bradley Cooper. Pas la mienne. Honnêtement,
c'est
franchement, tu vois un type qui met.
Mon cher Hugo.
Oui, calme.
Tu es avec Jacques Audiard, Thomas Dutronc, Mathieu Chédid ou Isia Higelin, un fils d'eux. C'est pas trop dur à vivre?
Non, 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 non. Alors, après, c'est compliqué. Hein. Moi, je me souviens, des fois, ça m'avait un peu fermé certaines portes. Vous voyez, d'être.
Ah oui,
on dit oui, parce que ton grand-père, ton père, tout ça. Donc, ça n'a servi à rien d'être le fils ou le petit-fils d'eux. Donc, j'ai dû coucher avec tout le monde. Et j'ai envoyé une photo de ma tub.
Ah, ils étaient faits pour se rencontrer.
Je pense qu'on peut accorder le point pour cette révélation.
Bravo.
Et on en arrive au moment que vous attendez tous.
Alors, sur cette manche interview croisée, nous avons une égalité,
oui,
déjà,
entre
Hugo Gélin et Sébastien Coé. Et si on fait le total de toutes les manches, eh bien, c'est Sébastien Coé qui l'emporte aujourd'hui.
Oh, on échappe à une grosse colère.
En même temps, j'avais pas le choix.
Colère, sinon.
Bah, je sais bien, colère. Soulevage de table d'Europe 1. Travaux derrière, c'est compliqué.
Déjà que c'est tout neuf, c'est beau. Hein.
Anissa, qu'est-ce qui va se passer demain?
Alors avant demain, je vous rappelle quand même que Hugo Gélin a réalisé son troisième film qui s'appelle Mon Inconnu.
Demain.
On vous conseille d'y aller parce que tous les films d'Hugo Gélin sont super. Avec François Civil, Joséphine Japy et Benjamin Laverne, il est très réussi ce film Mon Inconnu, donc dans deux jours au cinéma. Et puis Sébastien Coé, on peut le lire, sa bio c'est... T'es habillé comme tout le monde, mais tu ressembles à personne, paru chez Robert Laffont. Et puis, vous pouvez surtout aller l'applaudir sur scène, 100% libre. C'est le nom de son spectacle. Il sera le 12 avril au Ténith de Toulouse, le 13 avril à Aurillac, et le 18
aussi.
Mai. Non, je vais pas dire celle-là. Et le 17 mai à Fayence, à l'espace culturel.
Pourquoi t'as pas dit celle-là?
À Pfaffenhoffen, elle n'arrive pas à le dire. C'est pour dire beaucoup de F. Et on va aller en Suisse et on a plein de dates jusqu'à mi-2020, donc c'est fantastique.
Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h sur Europe 1, vous écoutez Carl Zéro et c'est Tonton Flingueur. La suite, c'est juste après les infos de 17h.
Mes chers amis, mes chers compatriotes, si cette émission n'existait pas, je vous fiche mon billet qu'ils ne se seraient jamais rencontrés. Mais aujourd'hui, le soleil a rendez-vous avec la lune. Le soleil, c'est évidemment celui des inconnus. C'est bien sûr Pascal Légitimus. Et la lune, c'est le spécialiste de la conquête spatiale, le Mister Lune d'Europe 1, Alain Siroux. Alors, mes chers tontons, vous allez devoir vous affronter à grands coups de questions politico-sociétales de façon à réduire la fracture sociale. Car c'est le but ultime de cette émission. Et avec de tels tontons, nous sommes quasiment sûrs que ça va dérouler. Avec Siroux, en même temps, ce serait un comble si on n'avançait pas. Mais si, c'est possible. Une vanne aussi lamentable. Anissa, la suite.
Oui, je vais prendre le relais, hein, si vous ne m'en voulez pas. Parce
mais
que,
d'accord.
Je vais quand même vous expliquer le principe. L'un de vous, cher tonton, va représenter pendant une heure la France d'en haut et l'autre la France d'en bas. Oula. Et à l'arrivée, ces deux Frances seront réconciliées, bien sûr.
Alors faites tirer.
Alain Siroux, c'est vous qui allez décider de votre propre sort.
Hop. Alors j'ouvre la France d'en haut.
Ah! Et donc Pascal Légitimus sera notre pauvre tonton de la France d'en bas.
Eh oui, tranquille, tranquille.
Pour toi, Alain Siroux, si tu gagnes, tu toucheras 21 800 000 euros. C'est ce que le PDG du groupe de luxe Kering, dit le fils Pinault, va toucher pour 2018, soit un colossal bonus différé de près de 19 millions d'euros, en plus de son salaire et de son variable, soit la plus grosse rémunération du CAC 40 pour l'année passée, une augmentation de plus de 200% par rapport à 2017. Eh bien, figure-toi que, ne reculant devant aucun sacrifice, François Henry te donne ses 22 millions si tu gagnes. Là, il nous écoute et il espère que tu vas bien te planter. Quant à toi, mon cher Pascal Légitimus, pour le prix France d'en bas, le cadeau est évidemment un peu moins bien.
J'imagine.
C'est normal. Mais il est proportionné. Tu gagneras, si tu remportes ce jeu, une pomme.
Génial.
Eh oui, ça creuse encore l'écart entre les Français, mais c'est sain de manger des pommes, Chirac le disait.
Bon, avant de commencer à jouer, je vous rappelle l'actualité de nos tontons du jour, parce qu'ils ont une actualité très chargée. Alain Siroux, il vient de signer Les Hommes de la Lune et les Enfants de la Génération Apollo. Alain Siroux et Jean-Philippe Ballas, un très beau livre paru aux éditions du Seuil, parce que vous le savez, Karl, nous sommes à l'approche des 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune.
Mais bien sûr,
et
Anissa,
ce livre est un
j'ai pu les vivre en direct, contrairement à vous.
Oui, absolument. Et ce livre, c'est un véritable voyage dans l'intimité des acteurs principaux de ce premier pas sur la Lune. Vous allez replonger dans cet univers. C'est un livre génial avec beaucoup d'images et beaucoup d'explications très claires d'Alain Siroux. Et puis Pascal Légitimus, il est à l'affiche de Non à l'argent. C'est une pièce de Flavia Coste au Bouffe Parisien.
C'est pour ça qu'il a eu une pomme.
30 représentations exceptionnelles. Mise en scène de Anouche Sedbon avec, écoutez bien quand même le casting, hein, Philippe Lelièvre, Flavia Coste, Julie Debona et Claire Nadeau. Et alors Pascal Légitimus, il joue le rôle de Richard qui a gagné un très gros lot au loto, mais il refuse d'aller chercher son gain. Alors il réunit sa femme, sa mère, son meilleur ami pour leur annoncer la bonne nouvelle. La suite, c'est au Bouffe Parisien que ça se passe.
Bah non, juste une question, pourquoi il refuse d'aller chercher son gros lot? Il est con, quoi.
Venez voir la pièce.
Ah d'accord, ok. C'est...
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est un plaidoyer comme ça pendant une heure et demie d'un type qui est tout seul face à trois avocats de l'accusation et lui se défend comme il peut. Alors pendant 1h20 on me déteste et les 5 dernières minutes les gens ils disent il n'a peut-être pas tort.
Ah,
c'est intéressant.
Et voilà, tu as réussi à nous donner envie d'aller voir ta pièce. On l'applaudit.
Pascal Légitimus, Alain Siroux, pour vous faire découvrir vos multiples talents et vos multiples facettes, nous allons rejoindre Ganesh qui est stagiaire en direct de BFM TV et on commence par votre bio, Pascal Légitimus.
Ici, au service police-justice de BFM TV, on parle souvent des inconnus, sans même bien les connaître. Des inconnus qui dévalisent des bijouteries, des inconnus qui lancent des fake news, que nous débusquons bien évidemment, des inconnus appointés par CNews qui font baisser la note de notre application BFM TV sur Google Play, il y en a à foison. Mais Pascal Légitimus, en revanche, est pour ainsi dire un inconnu connu de nos services, donc c'est différent. Issu d'une famille d'artistes, Pascal Légitimus a un père d'origine antillaise et une mère d'origine arménienne, un métissage d'origine plutôt rare, mais qui constitue tout de même un excellent départ dans la vie. Ainsi, lorsque sort la chanson pour l'Arménie dans les années 1980, Pascal touche. Lorsque la compagnie créole sort un disque, Pascal touche. Pascal se gave et je me dis que moi qui ne suis que réunionnais et vietnamien, je n'ai pas tiré le bon numéro, Karl.
Je vous le confirme, Ganesh. Alors Pascal, tu as dit je suis caucase cocotier, oui, mais arménien dans la vie et antillais sur scène.
Tout à fait.
Mais c'est horrible à vivre.
Oh non, c'est original, je trouve. C'est une expérience. En fait, c'est un peu comme la politique du bouchon de liège. Plus tu l'enfonces, plus il remonte à la surface. C'est un peu de la résilience. Donc, j'ai un peu souffert dans ma jeune enfance, mais ouais, pour des raisons un peu classiques, de racisme, parce qu'on n'arrivait pas à me situer. Et c'est vrai que maintenant, j'en jouis, parce qu'il y a le métissage qui est un peu partout, grâce à Obama, Yannick Noah, Wilfried Tsonga, que des A, quoi.
Pascal Légitima.
On ne va pas refaire le film à l'envers. Jalonné de multiples films à succès, de l'annonce faite à Marius à Antilles sur scène, Pascal Légitimus tutoie la réussite durant des années. Mais derrière le vernis de la gloire, la cruelle vérité que cache le succès de Pascal Légitimus est plutôt sordide, pour ne pas dire ignoble.
Que voulez-vous dire, Ganesh ?
En réalité, ces comparses des inconnus, les ineffables Didier Bourdon et Bernard Campan, n'existent pas. Ah. Depuis le début des inconnus, c'est Pascal qui se maquille et se déguise, à l'instar d'Eddie Murphy dans Le Professeur Foldin, ou encore dans Un prince à New York. Depuis 30 ans, Pascal se fait aider par de multiples subterfuges techniques, prothésistes et autres maquilleurs de cinéma, effets spéciaux, tournages sur fond vert et autres animatroniques. Enfilant un costume rembourré pour incarner Bourdon, se rasant le crâne pour camper campant, c'est pas facile à dire, Pascal est bel et bien seul depuis le début. Le public n'y a vu que du feu bien sûr, mais aussi les épouses à la ville de Bourdon et Campant qui croient dur comme fer que leur mari existe, alors que c'est Pascal qui les honore.
Oh, c'est horrible. Qu'un être ignoble.
imagination.
Bon, on passe à la bio garantie sans fake news maintenant d'Alain Sirou.
Mais pas avec Ganesh.
Bah si, on a que lui. Hein. Carole, je suis désolée.
Bon, vous restez alors, mais c'est la dernière.
Alain Sirou est l'auteur de Les Hommes de la Lune et Les Enfants de la Génération Apollo, un véritable roman de pure science-fiction qui en rajoute une couche sur cette fake news que les médias relayent depuis bientôt 50 ans. Mais ici, à BFM TV, nous en avons la preuve, l'homme n'est jamais allé sur la Lune.
Carl Zéro.
Breaking news.
Il a suffi d'un lopin de terre du Luberon particulièrement aride et de quelques maquettes en bois de balsa et surtout beaucoup d'astuces pour monter cette supercherie en trompe-l'œil. C'est devant la caméra du réalisateur français Max Pécasse, connu pour ses films comico-érotiques et non devant celle de Stanley Kubrick, qu'ont alors gesticulé deux paysans luberonnais, emmitouflés dans de fausses tenues de cosmonautes fabriquées avec un empilement de couches pampers de figurants, sûr retrouvés comme par hasard suicidés de plusieurs balles dans le dos et noyés dans du béton, tandis que Max Pécasse, lui, disparaissait subitement écrasé par un camion poubelle conduit par des reptiliens déguisés en éboueurs.
Alain, donc ton livre est un mensonge.
Oui, mais ça, c'est depuis le début. Parce que moi, j'ai vécu le moment où l'homme marchait sur la Lune. C'était génial d'ailleurs, parce qu'il y avait la télé qui arrivait dans les campagnes, il y avait Albert Ducrot qui était sur Europe 1 et qui commentait ça. Et moi, j'étais fasciné. J'avais mis une petite lunette dans la campagne et mon voisin paysan m'a dit tout ça, c'est des conneries. Je dis pourquoi ça? Non, ils ne sont jamais allés. Je dis mais pourquoi? Parce que là-haut, il n'y a pas d'épicerie. C'était d'une telle l'argument était tellement imparable.
Le bon sens.
Ah ouais, j'y réfléchis. Hein.
Malheureusement, Carl, c'est très intéressant ce que dit Monsieur Sirou, mais je dois vous interrompre à nouveau. Priorité au direct, l'info en continu, jingle.
Carl Zéro.
Breaking news.
La Terre est plate. C'est par ce tweet laconique que Donald Trump vient de révéler aux Américains la terrible vérité. Selon le président américain, c'est par un ingénieux jeu de miroirs et de très grands sauts placés à ses extrémités pour que l'eau des océans ne se perde pas à travers l'espace que la Terre nous a jusqu'ici paru ronde, Carl.
Une autre révélation, Alain, ce que révèle Ganesh est très troublant.
Oui, il y a un gars récemment qui m'a beaucoup amusé, il a pris l'avion avec un niveau à bulles. Et il est parti dans l'avion, et puis il a filmé le niveau à bulles pendant tout le voyage, lequel ne bougeait pas. Il a dit, voilà, c'est la preuve que la Terre est plate. Et le gars, il croit vraiment à la démonstration scientifique. Mais la vraie question, c'est si elle est plate, notre Terre, alors pourquoi est-ce que les autres sont rondes?
Les autres planètes, tu veux dire?
Toutes les autres.
C'est une très bonne question que nous poserons en deuxième partie d'émission à Nice.
Nous allons maintenant découvrir les sons qui vont représenter nos tontons flingueurs pendant toute cette émission, parce que vous allez jouer l'un contre l'autre. Et quand l'un de vous deux sera en tête dans les scores, il y aura un jingle pour le représenter à chaque fois.
D'accord.
Alain Sirou, votre jingle, ça sera ça.
Fly me to the moon.
Ah bah oui, bien sûr.
Un peu Sinatra.
De circonstance.
Mais alors, Légitimus?
Eh ben, ça sera ça. Parce que ce tube de Michael Jackson, maintenant, c'est la musique du loto. Et que Pascal, il gagne le gros lot dans sa pièce. Europe 1. Carl Zéro et ses tontons flingueurs font le tour de l'actu jusqu'à 18h sur Europe 1.
Alors, mon cher Alain, ton livre est évidemment un petit pas pour l'homme et un bond géant pour l'humanité. On y apprend de lourds secrets. Par exemple, que le premier drapeau déployé sur la Lune était suisse.
Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il y avait une expérience scientifique qui ressemblait à un drapeau. Ça consistait, c'est un peu une sorte de filet à papillon pour attraper des particules qui viennent du Soleil. Et c'est la première fois qu'on était vraiment à l'extérieur. Et les scientifiques avaient dit, on va l'attraper, mais à condition qu'on le déploie tout de suite dès qu'on arrive. Une expérience faite par un professeur suisse. Et il avait glissé à l'intérieur un petit drapeau suisse. Donc les astronautes, en arrivant, se sont dépêchés de le déployer pour attraper des particules.
Et ils ont découvert le drapeau.
Ben, ils ne l'ont pas vraiment nécessairement vu, mais ils se sont ensuite dépêchés de planter le drapeau américain. Et là, c'était beaucoup plus compliqué. Mais les Suisses savaient très très bien que le premier drapeau sur la Lune, c'était le leur. Il est suisse. Il est revenu celui-là, parce qu'on l'a ramené.
C'est tellement planant ce que tu racontes que je vais vous soumettre à un blind test des chansons de l'espace. Vous allez voir, c'est très très simple. C'est une playlist ayant pour thème le cosmos, les planètes, les étoiles. C'est top à la rapidité, vous allez reconnaître facilement. Et on démarre par carrément un cadeau. Un point est accordé à nos deux amis, mais alors avec une rapidité extraordinaire. Le deuxième extrait est aussi facile.
Indochine.
Le titre.
J'ai demandé à la,
Lune.
À la Lune, un truc comme ça.
Oui, c'est ça. J'ai demandé à la Lune.
On écoute un peu.
Je me suis dit quelle infortune. Et la Lune s'est moquée de moi.
Un des groupes préférés des Inconnus, si j'ai bien compris.
Tout à fait, mais pas de Indochine. À l'inverse.
Troisième extrait. C'est du saxo.
Oui, bien sûr. Ténor, non.
C'est un indice.
Non, je suis électeur.
Alors, un autre indice. Si je vous dis Ronald McNair.
C'est un astronaute.
Non, là, je... Moi, je sais. Chaque fois, je m'en... Je peux pas dire grand-chose.
Oui, du saxo...
Un saxo et Ronald McNair.
C'est un astronaute.
C'est un astronaute, Ronald McNair.
Il faut trouver le titre d'une chanson.
Je sens que tu ne vas pas trouver. Alors, tu peux me regarder avec ton petit œil, tu ne vas pas trouver.
Moi,
il se trouve
moi.
Que cet astronaute était le grand copain de Jean-Michel Jarre.
Oui.
Et il devait jouer ce solo de saxophone dans la navette Challenger. Et manque de bol, elle a explosé au décollage en 86. Alors, puisqu'on est dans les morceaux de l'espace, vous vous souvenez que Thomas Pesquet, l'astronaute français qui a passé 6 mois à bord de la Station Spatiale Internationale, a régalé la toile avec ses photos, mais aussi ses playlists. Vous allez retrouver quelques-uns des tubes de l'ISS. Premier.
Ça, c'est Bruno Mars.
Yes.
Bravo, Pascal. En même temps, avec un nom comme ça, il était prédestiné.
Tout à fait, bien joué. Et sympa votre émission, c'est bien, il y a du boulot, vous bossez quand même, c'est bien. C'est bien.
Attention, la deuxième. Là, je crains que, à part nos jeunes tontons, personne ne sache.
Les auditeurs, ils le savent parce qu'on la passe beaucoup sur Europe 1. Hein.
Ah, alors Eddie de Préto.
Ah bah l'autre.
Ryan Gosling et je ne sais plus. Ah non, Bradley Cooper.
Et Lady Gaga.
Et Lady Gaga.
Je vois que vous connaissez par cœur la playlist d'Europe 1, c'est bien.
Bah, je commence à la connaître. Il s'agissait de Jane, avec Makeba.
Myriam.
Mais heureusement que
Myriam.
C'est... Pas Myriam, non.
Je faisais genre, j'ai de la culture.
Bon, peut-être celle-là, vous la connaissez, allons-y.
Ah oui.
Ça passe souvent également sur Europe 1.
Mmh, oui.
Jeune chanteur, fan de Jean d'Ormesson, il a été révélé grâce à La Nouvelle Star. Il a toujours une barrette dans les cheveux.
Julien Doré.
Bonne réponse grâce aux 14 indices donnés par Anissa. Et pour finir, alors là, c'est tellement facile que si vous ne la trouvez pas, c'est l'exclusion. Hey, mais le titre.
Je ne suis pas très méthode.
Dans
Sky. Non, non.
Non, c'est
Alain, tu
pareil.
Cherches à te foutre de ma gueule.
Non, non. Je suis pas très vite, moi. J'étais plus de Rolling Stone, Pierre qui roule.
Morceau diffusé dans l'espace par la NASA à l'occasion de son 50e anniversaire.
Ça, c'est vrai.
Across the
Universe.
Great, Alain Sirou, t'as pas le point. Retour sur Terre, bilan Anissa.
Et bien sûr, cette manche spéciale blind
Houston.
Test espace, c'est Pascal Légitimus qui est en tête face à Alain Sirou.
Désolé.
Europe 1. Tous les jours sur Europe 1 à partir de 16h, Carl Zéro est entouré de ses tontons flingueurs pour jouer avec l'actu.
Tonton qui a eux deux ont fait bac plus 25. Aussi, voici la question de philo que je leur pose. Le comique a-t-il pour unique fonction de faire rire? En effet, aux États-Unis, un comique qui se glisse dans un rôle sérieux et réciproquement, c'est banal. Mais selon toi, Pascal, c'est terrible. Moi, dis-tu, j'aime l'ambivalence. Pouvoir faire rire, émouvoir, surprendre. Bref, tout jouer, mais en France, c'est assez compliqué. On n'aime pas ça. Et un rôle sérieux au cinéma pour un comique, c'est un peu le Graal, avec souvent un César à la clé si c'est réussi. C'est la véritable reconnaissance de son talent de comédien. Et c'est comme si être comique, c'était pas suffisant, alors que souvent, c'est ce qu'il y a de plus difficile. La preuve, avec ce quiz, des comiques qui ont fendu l'armure. On va entendre un extrait d'un comique dans un rôle sérieux, et vous devez déterminer le nom de l'acteur, éventuellement le film. On commence toujours par un facile. Celui-là, il est tellement facile que je m'en coupe une si vous trouvez pas.
Attention. Tiens, il doit y avoir des œufs dans le frigidaire.
Et alors?
Et alors, si t'en casses 4, ça va faire une omelette.
Non mais va te faire foutre, pour qui tu me prends? Non mais je suis pas ta bonne, hein. Si tu veux te faire un œuf, t'inquiète, le faire cuire tout seul.
Alain, tu as l'air perplexe.
Non, je cherchais dans quel film c'était.
Et il s'agit de
Ciao Pantin.
Bonne réponse, et l'acteur c'est
Yann Essoral et Coluche.
Bravo, bravo. Un point pour chacun, vous êtes très bon. Mais avant Coluche, il y en a eu d'autres, un surtout.
Monsieur Mattei, vous ne saviez pas qu'un suspect doit être considéré comme un coupable?
Pas pour moi, monsieur l'inspecteur général. Il m'est passé entre les mains tant de suspects qui étaient innocents.
Vous voulez rire? Il n'y a pas d'innocents. Les hommes sont coupables.
C'est la deuxième voix, hein, qu'on recherche.
La première, c'était Anissa, François Perrier.
Et non pas François Schweppes.
Il a une toute petite carrière, François Schweppes. Ouais. Ah, vous trouvez pas?
Il est déjà malade, hein, sur ce
il
film.
C'est son dernier
c'est
film.
C'est son dernier film.
Et Bourville.
Bonne réponse.
Bourville.
André Bourville. Heureusement, le suivant est plus facile pour vous.
Vous avez des références?
Ouais, des références, ouais, j'en ai.
Ben, on vous écoute.
Je sais pas, Cool and the Gang, Person on Fire, c'est de bonnes références, ça, non?
Je connais pas. Asseyez-vous.
Non, si vous connaissez pas, c'est que vous y connaissez rien en musique.
Ben, Intouchable.
Et l'acteur?
Omar Sy.
Et Alain?
Bravo.
Dans la lune. Alain, toujours dans la lune, c'est pas très grave.
Face cachée, en plus.
Le suivant.
Tu connais l'histoire de l'ange de l'oubli? Quand un bébé vient au monde, il connaît toute l'histoire de l'homme depuis la nuit des temps. Il est le gardien de la mémoire de l'humanité. Il sait tout. Depuis la découverte du feu jusqu'au produit light, les invasions, les guerres, la poésie, les souffrances, la famine, l'amour, j'ai envie de t'embrasser, les inventions, tout. Tout ce qui est fait.
Bernard Campan ?
Ouais.
C'est Bernard Campan. Tu n'as pas vu le film, hein. Se souvenir des belles choses.
J'ai vu le film, bien sûr.
Ah, t'as oublié, mais c'était en 2001, alors c'est un peu vieux.
Non, mais c'est le film qui l'a mis un peu sur orbite pour être dans le sujet.
Bien. D'ailleurs, je demande à Houston si on a des nouvelles d'Alain Sirou.
Roger, vous m'en savez.
Et d'ailleurs, Bernard Campan joue actuellement avec sa partenaire Isabelle Carré au Théâtre de la Renaissance.
Extrait suivant.
Je prends la grenade, je découpe, je tire, je jette la grenade comme ça sur l'Allemagne. Tous l'Allemagne, ils sont morts. Je libère un pays. C'est mon pays.
Benoît Poelvoort.
Alors, tu as pris de la drogue avant de venir, Légitimus.
Pourquoi?
Ah, c'est pas du tout Benoît Poelvoort.
Il a un accent belge un peu comme ça, non?
Ah non.
C'est un accent
non,
marocain. Tu confonds la Belgique et le Maroc.
Mais c'est du Maroc du très très nord, alors. C'est plus des.
Ça vous a fatigué, les inconnus, hein, sans déconner.
Bon, bah écoute, pour une fois que je fais une mauvaise réponse, hein, quand même.
Il a un bras un petit peu comme ça.
Que c'est il a pas vrai. Un peu comme ça. Ah, il a trouvé, Alain.
Ouais. Alain?
C'est Jamel, mais cherchez le film. Ah, le film, j'arrive pas à trouver. Indivisible.
Non, la
sur le soleil.
Sur
le
dinosaure.
La Deuxième Guerre mondiale.
Ah, je ne l'ai pas vu.
Indigène.
Ah ouais.
Extrait suivant.
Depuis que je suis sorti de tôle, j'ai qu'une idée en tête. Refaire l'union de la gauche pour qu'Amélie soit forte face au Front National. Je te donne ma vision, mon avis, mes idées. Et après, c'est toi qui agis.
François Hollande, non?
Non. Presque.
Je pense qu'on va débrancher Alain Sirou.
Presque, il joue le rôle de Julien Drey dans cette série française.
Ah bah tu vois.
Le baron noir Gad de Merad.
Cadmerade. Ah, tu le fais avec l'accent.
Cadmerade, ouais, parce qu'il est de là-bas, lui. Hein.
Bonne réponse de Légitimus. Je ne vous demande pas le bilan, ma chère Anissa, j'ai compris.
Bah, je vais vous le donner quand même. Il a quand même marqué des points, Alain Sirou, mais pas assez. C'est toujours Pascal Légitimus qui est devant et qui mène sur cette manche.
J'attends les questions scientifiques, c'est pour ça.
Oui, bien sûr. Elles arrivent.
Europe 1. De l'actu, des quiz, des anecdotes et beaucoup de bonne humeur. C'est le programme tous les jours et même le week-end à partir de 16h sur Europe 1 avec Carl Zéro et ses tontons flingueurs.
Alors le jeune stagiaire de BFM TV Ganesh en a parlé tout à l'heure. Mon cher Pascal, tu as deux origines, antillaise et arménienne. À ce sujet, l'humoriste footballistique arménien Julien Cazard était avec nous vendredi dernier. Et il a voulu te rendre hommage en nous faisant une révélation.
Les mecs, c'était des génies, quoi. Je dis pas ça parce qu'il y en a un qui est mon cousin.
Quoi ?
Ah, tu l'as pas, celui-là ? Eh oui.
Qui ?
Ah, bah, devine.
Bourdon.
Non.
Légitimus ?
Oui !
C'est pas
vrai. C'est mon cousin.
C'est ton cousin.
Eh oui, il est à moitié arménien. Alors, jusque-là, je t'apprends pas grand-chose, mais...
C'est vrai ce canular ?
Oui, tout à fait. Ce n'est pas un canular, non, c'est une vérité vraie. Oui, effectivement, du côté de ma mère, donc chez les Arméniens, j'ai une cousine. La cousine de ma mère, c'est la mère de M. Cazard.
Quant à toi, Alain, puisque tu es revenu de la Lune, il me semble qu'un quiz s'impose. Alors, il est très simple. Il s'appelle « Le pour toi ou pour moi ». Je vais vous citer une déclaration d'actu qui sera soit antillaise, soit arménienne, soit lunaire. Et selon qu'elle vous concerne, vous devez juste dire « ça, c'est pour moi ». « Ça, c'est vraiment moi ». Un point pour Pascal, c'était téléphone. Et on commence par une admonestation. Tu es encore un novice en politique. Apprends d'abord l'histoire de ton pays. Ça concerne les Antilles, ça concerne l'Arménie ou la Lune.
Pas la Lune en tout cas.
Pas la Lune.
Moi je dirais l'Arménie. Moi.
L'Arménie, ouais, ouais. Bonne réponse, ouais. C'est ce que le président turc, Erdogan, très remonté suite à la décision de Macron d'instaurer une journée nationale de commémoration du génocide arménien, lui a dit. Deuxième phrase.
Pas bien.
La politique officielle des États-Unis d'Amérique est de faire revenir...
Ça, c'est pour moi.
Bonne réponse.
Un homme ou une femme sur la Lune et ils seront américains. Et c'est Donald Trump.
Ouais. Eh oui, il est très agacé. Il veut aller.
Non mais c'est facile, il n'y a personne sur la Lune. Donc dès que quelqu'un dit une connerie, ça se sait.
Une autre phrase. La France va maintenant vraiment faire de la science et cela, nous ne l'avons jamais fait jusqu'alors.
C'est dans l'espace, ça c'est sûr. Mais il y a plein de façons de faire de la science dans l'espace qu'on n'a jamais fait. C'est presque même un pléonasme. Quand on fait de la science dans l'espace, c'est généralement qu'on ne l'a pas fait. On ne refait jamais la même chose. Donc c'est de l'exploration, ça peut être sur une comète, un astéroïde, sur la Lune, en étant passager d'une sonde spatiale.
Qui serait,
par exemple, la sonde chinoise.
Et voilà, il vient de partir.
Oui. Alors il y en a une qui est partie. Il y a une...
Non, je parlais du président, il vient de rentrer chez lui. Et il a signé un accord avec les Français.
Avec les Français pour une sonde spatiale.
Voilà. D'accord. Bonne réponse pour notre ami Sirou. Dans notre tradition, chaque personne doit posséder trois choses dans son foyer. L'alphabet, le mont et le catch-car.
C'est pas sur la Lune. J'ai gagné.
Ça n'est pas un gâteau, le catch-car. Le mont. Il n'y a qu'un mont.
Il y avait un astronaute d'Apollo qui pensait que l'Arche de Noé s'était posée sur le mont Ararat.
Oui.
Il a organisé deux expéditions pour aller la chercher. Et la deuxième, il est mort d'une crise cardiaque.
Ah, donc, vous êtes sûr qu'il est mort d'une crise cardiaque ?
Oui.
Ah, parce que des fois, je ne suis pas complotiste, mais des fois, il y a des trucs bizarres. Attention. Je dirais l'Arménie, moi. Parce que
l'Arménie, c'est le conseil du vicaire général de l'Église apostolique arménienne de France. Un ami à toi, Krikor Kachtarian.
Mais en fait, on l'appelle Dédé. On va pas se faire chier avec toute cette rallonge de noms.
Alors un catch-car, c'est une croix en pierre et le mont, on l'a dit, c'était le mont Ararat. À force de croire en ses rêves, l'homme en fait une réalité.
Ça peut être lunaire, ça peut être Jules Verne, ça peut être...
C'est pas Pesquet ?
Tous les gens qui ont rêvé de partir dans les étoiles, dans l'espace.
C'est pas Monsieur Tesla ?
C'est pas Monsieur Tesla, c'est Monsieur... un indice, oui. On a marché sur la Lune.
Hergé.
Hergé,
bien sûr.
Bonne réponse. Et bilan avec Anissa.
Et bien, sur cette manche, c'est Alain Sirou, une fois n'est pas coutume, qui revient et qui est en tête face à Pascal Légitimus.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
Europe 1. Dès 16h, tous les jours, du lundi au dimanche, sur Europe 1, Carl Zéro et ses tontons flingueurs s'amusent avec l'actu.
Alors, comme tonton Sirou s'est réveillé en troisième ou quatrième partie d'émission.
Bonjour.
Et je dois dire qu'on apprend énormément de choses dans ton livre « Les hommes de la Lune et les enfants de la génération Apollo » paru au Seuil. Ainsi que dans le magnifique hors-série Télérama consacré à la Lune, dont Europe 1 est partenaire. Alors, vous me voyez venir, histoire que tu gagnes encore un peu plus de points, on va vous tester sur la Lune.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3... 2, 1, 0.
Un son magique. Alors c'est un QCM, questionnaire à choix multiples, donc t'as encore toutes tes chances, mon cher Pascal, parce que là c'est un peu pour lui, il faut le reconnaître. Alors, on connaît tous le premier homme sur la Lune qui était...
Armstrong.
Bien. Qui est le dernier ?
Eugène Cernan.
Harrison Schmitt.
Ou Ryan Gosling. Oh,
c'est Cernan, Gene Cernan, qui était d'ailleurs avec Harrison Schmitt, qui était le seul scientifique sur la Lune. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 12 hommes qui ont marché sur la Lune, mais il y a un seul scientifique qui a été, c'est le géologue. Et les autres étaient des pilotes, c'était des pilotes d'essai, c'était des militaires. Et ils ne voulaient pas avoir de scientifiques sur la Lune en disant « Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ces gars-là quoi ? Nous, on veut se poser sur la Lune. » Et il a été imposé, et c'est le seul scientifique qui est... alors, il est encore vivant, hein, mais qui est allé sur la Lune en connaissance de cause pour la géologie. Il a ramassé des cailloux qui nous racontent l'histoire de la Lune.
Mais qui l'a imposé ? C'est quelqu'un qui l'a imposé ?
C'est la communauté scientifique, quand même, qui a réussi à faire pression. Bah, 1 sur 12, c'est quand même pas beaucoup. Quoi.
Quels furent les premiers mots du commandant d'Apollo 12, Pete Conrad, lorsqu'il a posé le pied sur la Lune ?
Ce fut un petit pas pour Neil, mais pas pour moi.
C'est beau, mais c'est loin.
D'ici, je vois ma maison.
D'ici, je vois ma maison ?
Non.
Je vais faire un peu de vanne quand même, parce que c'est très sérieux tout ça.
C'est bon, mais c'est loin, c'est le Chirac. Donc
c'est Chirac, ouais.
Il n'en reste qu'une.
Oui, c'est la deuxième. La deuxième.
Et évidemment. Pourquoi ?
Parce que tout le monde lui avait dit « Mais est-ce que t'as pensé à une phrase ?» Et ça le gonflait tellement qu'il s'est dit oh, « Je ne vais pas du tout m'embêter, je vais dire ce qui me passe par la tête. »
C'était un journaliste italien qui lui avait soufflé, lui avait dit « T'es alors, pas capable de dire ça. »
Alors ça, c'est la version
officielle.
Oui, il s'est rattrapé par la suite, mais on a toujours demandé au type, mais qu'est-ce que vous pensiez, qu'est-ce que vous avez dit ? Donc ça les énervait un petit peu. Et il y en a un qui a juste craqué en arrivant et qui a dit « Ah, ça y est, quand même, enfin j'y suis là, ça y est, c'est bon ça. » Et on n'a pas retenu cette phrase-là, mais c'était la plus naturelle.
Qu'est-il arrivé au célèbre drapeau américain planté à la surface de la Lune ?
Il a été ramené sur Terre par la mission Apollo 12.
Il est toujours dans le désert en Californie où cette vaste supercherie de l'administration Nixon a été tournée.
Il est devenu tout blanc.
Ben, tout blanc, peut-être.
Il est devenu tout blanc.
Ouais, tout blanc, je pense.
Comme Michael Jackson, ouais, donc, étoile. Hein.
Il est devenu tout blanc parce qu'au décollage, la poussière a été tellement importante qu'elle a jeté le drapeau, je dirais, dans la cendre. Enfin, en tout cas, pas dans la cendre, mais dans la poussière lunaire. Et il est devenu tout blanc, oui.
Bonne réponse. Certains disent, bien sûr, des deux. Certains disent qu'il est même désintégré à l'heure qu'il est. Tu crois que c'est possible, ça ?
Désintégré, c'est peut-être un mot fort. Je pense qu'il a été, poussé par la puissance du décollage. Quoi. C'était vraiment. Il y a pas d'atmosphère sur la Lune, donc il y a eu ce souffle qui a balayé tout. Mais à l'époque, on n'avait pas la caméra qui permettait de voir cela.
Donc il y a pas d'air sur la Lune, autre chose. Il y a pas d'azote. Enfin, il y a rien.
Non, il y a pas d'atmosphère.
Donc,
en fait.
Mais ce n'est pas vide.
C'est du vide quasi total. Il y a une toute petite, mais c'est peut-être un milliardième de l'atmosphère terrestre. Il y a un petit peu d'oxygène qui s'échappe des pierres, en fait, parce que les pierres sont chauffées. C'est un chaud et froid, quoi. Quand le soleil tape, c'est plus 140. Ouais. Et quand c'est la nuit, donc
c'est moins 300.
C'est moins 180. Ouais. Et la différence, le contraste, c'est plus de 300 degrés. Donc il faut qu'ils aient des combinaisons qui supportent les 300 degrés. Mais on ne peut pas respirer, on doit être totalement autonome. Quoi.
Quel est le seul sport à avoir été pratiqué sur la Lune ?
Le golf
ou le ping-pong ?
Le golf, je dirais moi.
Oui, le golf.
Bonne réponse, alors raconte.
Alors, c'est un astronaute qui avait... c'est Alan Shepard, qui est un amateur de golf et qui a amené, un peu en loose day, mais il avait quand même un peu l'autorisation, un club de golf qu'il a remonté sur la Lune. Il a sorti une balle et il a essayé de flatter deux fois. Et il a dit qu'il avait réussi le lancement le plus incroyable. Il y avait à côté de lui un autre astronaute qui avait pris une hampe de drapeau et qui, lui, s'est essayé au javelot. Bon, le record n'a pas été homologué. On l'a un peu tué, mais l'idée était très drôle quand même de pouvoir utiliser la Lune comme un stade de Jeux Olympiques.
Et je me tourne vers Anissa pour avoir un bilan de ce quiz lunaire.
Eh bien, sur cette manche, Karl, c'est Alain Sirou qui est en légère tête.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
Europe 1. Des tontons flingueurs, Karl Zéro, de l'actu, des jeux et de la bonne humeur. C'est votre programme, même le week-end, sur Europe 1 à partir de 16h.
Alors mon cher Pascal, pour ton 30e anniversaire, ou plutôt celui des Inconnus, vous êtes reformé début mars, le temps de cette soirée des Enfoirés à Bordeaux. Et vous avez littéralement cassé la baraque.
Je sais pas comment te dire ce que je veux pas dire. Faudrait que je prenne des mots, tu dis pas dans le dico. C'est toi que je t'aime.
Évidemment, si je te pose pas la question, on dira que je ne fais pas mon travail. Ça vous donne pas envie de vous reformer une bonne fois pour toutes?
Ah ouais.
Il y en a toujours 2 sur 3 qui ont envie, et c'est toujours Bernard qui est un peu réticent. Mais sur l'échelle de 20, on était à 9, on est passé à 14 après cette belle soirée, parce que on a vu dans son œil quelque chose de briller, quelque chose de plus. Et bon, ça va faire son chemin, comme il a dit. Donc, faut être patient.
Bernard, si tu nous entends, un acte citoyen. En tout cas, vous êtes revenu au grand complet avec le casting d'origine, et c'est pas souvent le cas. C'est pourquoi je vous propose de faire ce blind test des reformations de groupes mythiques, mais bancales. Vous devez me dire le nom du groupe et ce qui cloche par rapport à la formation originale.
Oula.
C'est pointu. Premier extrait. Argent,
trop cher. Ouais. Les insus, téléphone, il manque Corinne. Oui, je suis d'accord.
Ouais. Réponse complète, hein.
Bravo.
Parfaite, ouais. Hein. De Pascal.
Et en plus, il a dit je suis d'accord, donc on lui accorde le poids. Mais tu fais pas deux fois. Tu fais pas deux fois. La musique préférée d'Alain Siroux, je le sens.
Ah ouais, non mais voilà. On sent que ça date pas d'aujourd'hui.
Bah vous, justement.
Un groupe mythique.
Allez, vous, The Who.
Non. Reformé en 2007, un concert exceptionnel à Londres, mais. Sans quelqu'un qui manque beaucoup. Alors le nom, c'est Led Zepp.
Led Zepp.
Ah ouais, bah et qui manquait?
Moi, j'ai dit, c'est pas ma cam, moi, ce genre de musique.
Bah, John Bonham, le batteur qui était mort en 80, et c'est son fils, Jason Bonham, qui officiait derrière les fûts. Attention, ah oui, alors ça. C'est très difficile.
Oui, sûrement.
C'est un homme qui est très proche de la Jamaïque, qui aime beaucoup la Jamaïque.
Oui, un homme qui a arrêté de fumer, je le dis pour les jeunes. C'est moi.
Alors, c'est toi.
Et oui, en l'absence de Bob Marley.
D'accord.
Excusé pour des raisons de santé.
D'accord.
J'ai repris le rôle, le temps d'un album avec les Wailers en 2004. Attention, très célèbre.
Beatles. Oui, bien sûr.
Bonne réponse. Mais qui manque-t-il?
Lennon.
Bonne réponse.
Oui, bah, oui. Bah.
Oui.
En 93, à l'occasion de la sortie du coffret Anthologie, les trois qui restaient sont retrouvés pour faire un petit bœuf et enregistrer 2 titres sur la base de démos écrites par Lennon, dont ce Free as a Bird. Un peu dans le même genre.
Queen. Il manque Freddie Mercury.
Bonne réponse, bravo.
Et vous savez que le guitariste de Freddie Mercury est astronome.
Oui.
Et donc est un spécialiste.
Brian May.
Brian May est devenu astronome après avoir quitté Queen. Et c'est un spécialiste mondialement reconnu des poussières dans le système solaire.
Alors Freddie Mercury est mort, il a été remplacé par Paul Rogers et ensuite par Adam Lambert, qui ressemble un peu à Matt Pokora.
Ah bon?
Eh oui, hélas, il faut que vous regardiez les vidéos. Quant à la voix, eh bien, elle ressemble à celle de Eddie de Preto. Donc on est très très loin du Queen original, mais c'est pas grave. Ils seront en tournée cet été, je vous l'annonce, on peut aller voir Queen.
Ah ouais.
Mais c'est pas les vrais. T'avais vu les vrais?
Non, jamais. Non, j'ai vu Arsenal and Fire, moi. C'est ma cam. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait faire un quiz avec Arsenal and Fire, parce qu'il manque Maurice White, qui a eu un cancer, qui a eu la maladie de Parkinson.
Oh, le pauvre homme.
Voilà, le créateur du groupe en 71.
Et là, c'est la fin de l'émission et tu casses totalement avec cette révélation horrible. Maurice a eu un cancer. Anissa, là, tout le monde a envie de savoir qui a gagné.
C'est vous, Pascal Légitimus, sur ce dernier quiz qui l'emportait. Et du coup, c'est vous qui gagnez tout le match, Pascal Légitimus.
Et voilà.
Merci.
Et une tonne. Et donc... les 20 millions de dollars, ah non, finalement, on ne pourra pas te les donner.
Non, de toute façon, j'ai déjà un salaire astronomique, ça suffit.
Ok, c'est parfait. Quant à toi, la pomme t'attend en régie. Une belle pomme, il s'agit d'une golden, tu aimes?
Je préfère les Juliettes.
Très bien, eh bien, une Juliette en régie, merci beaucoup. Demain, qu'est-ce qui se passe?
Alors demain, nous aurons deux tontons flingueurs de nouveau. Alors le match va être très étonnant demain. Brigitte Fontaine et Sugar Sammy, l'humoriste. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez lire Alain Sirou si vous voulez replonger au cœur de l'intimité des acteurs principaux de la saga des vols lunaires et notamment les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune. Les hommes de la Lune et les enfants de la génération Apollo.
Alors ça, je fais ça maintenant et ce soir, je vais voir mon ami Pascal.
Absolument, ce soir au Bouffe Parisien, Non à l'argent, c'est une pièce de Flavia Coste avec Pascal Légitimus, bien sûr. Et vous allez voir comment un homme qui gagne au loto ne veut pas toucher son argent et comment sa famille réagit. Tous les week-ends de 16h à 18h sur Europe 1, vous écoutez Carl Zéro et ses tontons flingueurs. Carl revient demain, dimanche, à 16h.